allez entendre un message de William Branham prêché le 12 juillet 1960 à Klamath Falls, Oregon, USA. Ce message s'intitule « L'adoption » ou « Écoutez-le ».
Three witnesses on the earth. When God gets ready to do something, He always has a witness of it. I'm so glad today that we can look around before the coming of the Lord and see the witnesses of His appearing. See the signs.
Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis, vous entendrez la traduction française de ce message.
The last thing. Remember, he said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Look what the sinners were doing in Sodom. Look what the angel of the Lord did when he come down to bear record of it. Watch what the three angels did. All three of them. Look at the world today in its sin. Look at the church today in its condition, like Lot. Look at the called out church having a struggle like Abraham was. The man or woman today that tries to live for God has a struggle to keep on going. You have to press into the kingdom of God. What is a pity. But let us look at it. Notice down there was the sinner. Look what the sin was.
Je suis si content d'être de nouveau ici ce soir, où nous, l'Église n'est pas exactement un bâtiment, mais un lieu où les gens sont réunis. Et nous croyons que l'Éternel Dieu nous donnera de grandes et nombreuses bénédictions ce soir. Hier, je pensais à la possibilité d'avoir 10 jours de réunion, mais voilà qu'on commence à amener de nouveau des malades. Ainsi, combien aimeraient avoir un service de guérison demain soir? Cela vous intéresserait-il? Très bien, très bien. Alors nous dirons aux frères de distribuer les cartes de prière tôt, demain après-midi ou plutôt demain soir. À quelle heure cela commence-t-il? Nous ouvrons à 7 heures. Oui, vers 7 heures demain soir. Et ensuite, regardez combien de personnes peuvent venir pour le service de prière pour les malades et nous ferons tout notre possible pour prier pour chacune d'elles. Hier soir, nous avons parlé sur la discipline dans l'Église. Et je pense que si nous pouvions simplement placer l'Église dans une véritable attitude spirituelle, alors il y aurait vraiment un réveil. Et ce serait tellement mieux lorsque nous prions en faveur des malades. Aussi longtemps que notre condition s'effondre, alors nous ne semblons pas le saisir comme nous devrions le faire. Mais quand tout le monde a prié et se sent bien, attendant de grandes choses, j'allais souvent à la plateforme. Il y avait là 5, 6 ou 7 000 personnes. Et vous ne pouviez pas voir une seule personne faible quitter la plateforme. Tous se levaient de chaises roulantes, de lits et de civières et se mettaient à marcher, parce qu'ils étaient dans une telle attente. C'était au début de mon ministère, avant qu'il y ait quiconque d'autre dans le champ de mission. Et parce qu'ils avaient été en quelque sorte abandonnés pendant un certain temps, ainsi, c'était nouveau, et les gens attendaient n'importe quoi. Maintenant, si vous avez la même attente, vous obtiendrez les mêmes résultats, voyez-vous? Parce que c'est Dieu qui guérit les malades, voyez-vous? Un homme ne pourrait pas guérir les malades, parce que cela n'est pas en son pouvoir. Cela ne repose pas dans la puissance des docteurs de guérir les malades. Un docteur ne peut pas guérir les malades. Il peut seulement aider les malades. Dieu guérit toutes les maladies, voyez-vous? Un docteur peut remettre votre bras si vous l'avez cassé, ou suturer une plaie, ou encore extraire une dent si elle est mauvaise, ou un appendice. Mais il ne peut pas guérir l'endroit où l'intervention a eu lieu. La guérison, c'est un renouvellement des cellules de l'endroit malade. Et c'est la vie qui fait cela. Et Dieu est la vie. Et c'est ainsi que la guérison s'accomplit. C'est au travers de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Le corps humain est fait de telle manière que vous... Dieu savait que nous aurions des accidents, qu'on nous ferait des incisions, etc. Et je crois que c'est un médecin qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, que lors de cette nouvelle opération du cœur, ils y greffent des valves en plastique, dans le cas, par exemple, de rhumatisme articulaire aigu. Mais je ne crois pas qu'il y ait un autre endroit dans notre corps où on puisse agir ainsi. C'est seulement à cet endroit que cette valve de plastique peut être tolérée et soudée à l'artère et au cœur. Dans d'autres endroits de votre corps, cela serait immédiatement rejeté. Voyez-vous, Dieu savait que cette opération serait nécessaire. Si vous coupez votre main et sectionnez vos artères, ou par exemple, une conduite d'eau, si vous arrêtez une conduite d'eau quelque part dans la ville, quelque chose doit exploser ailleurs, cela refoulera. Mais Dieu a tout prévu de manière à ce que le sang contourne cette difficulté et circule comme avant. Si ce n'était pas le cas, cela refoulerait en direction de votre cœur et vous tuerait en une seconde. Si vous vous coupiez la moindre des veines, cela vous tuerait en une seconde. Mais Dieu savait que nous allions nous blesser et ainsi il prépara nos cœurs en vue de cela. Ainsi nous voulons savoir que tout est l'effet de la bonté de Dieu.
Amen.
Comme notre brave frère Oral Roberts l'a bien dit, Dieu est un Dieu bon, il est assurément. Et maintenant nous savons qu'il est un Dieu bon, mais nous ne voulons pas compter trop là-dessus. Souvenez-vous qu'il est aussi un Dieu de justice, parce que sa sainteté fait qu'en lui soit la justice. Et ses lois doivent être respectées, ses exigences. Ainsi, s'il est un bon Dieu, il doit être bon. Souvent, nous ne sommes pas au clair sur ce qu'est la bonté. Nous ne sommes pas au clair sur ce qu'est la sympathie, la compassion. Observez un moment ce que veut dire ce mot compassion. Combien croient que Jésus-Christ était compatissant? Il était assurément. Un jour, il alla à la piscine de Bethesda. Il y avait là des multitudes. Il faut 2000 pour faire une multitude. Ainsi, il y avait une multitude de gens qui étaient là, des boiteux, des aveugles, des estropiés, qui languissaient et attendaient le mouvement de l'eau. Jésus regarde autour de lui, dans cette multitude de gens, jusqu'à ce qu'il trouve un homme qui était, eh bien, il n'était pas estropié. Il dit, pendant que je vais à la piscine, un autre descend avant moi. Il était atteint de cette maladie depuis 38 ans. Elle n'allait pas le tuer. Elle était peut-être la tuberculose ou des troubles de la prostate ou autre. Il était couché sur un grabat. Jésus le guérit, puis il partit, laissant cette grande foule de gens qui languissaient, infirmes, boiteux et aveugles. Est-ce vrai? Et pourtant, il avait de la compassion. C'était un sauveur compatissant. Avez-vous remarqué ce qu'il a répondu quand ils lui posèrent une question à ce sujet? Au verset 19, il dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ceci, le Fils le fait pareillement. » Être compatissant, c'est faire la volonté de Dieu, et c'est ce que de véritables chrétiens, être compatissant, c'est faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous mélangeons tout. Nous essayons d'y joindre l'élément humain. Comme de l'amour, nous essayons d'utiliser l'amour de Dieu comme nous le faisons avec l'amour humain. Vous ne pourriez pas tomber amoureux de Dieu comme vous le faites de votre femme. Vous ne pourriez pas tomber amoureux de Dieu comme vous le faites de votre mari, ou de votre bon ami ou bonne amie. Ce sont deux amours complètement différents. Même dans le grec, ce sont des mots différents. L'un d'eux est appelé philéo, c'est l'amour que vous avez pour votre femme. Ce genre d'amour vous ferait tuer un homme à cause d'elle, par jalousie. Mais l'amour agapao, qui est un amour divin, au lieu de tuer l'homme, vous fera prier pour son âme pécheresse. C'est vrai, c'est la différence qu'il y a. Et quand vous mélangez l'élément humain avec l'élément chrétien divin, alors vous en faites du gâchis. Parce que nous ne connaissons que par centimètre, mètre, kilomètre, etc., par gramme, livre, etc. C'est tout ce que nous connaissons. Nous sommes des gens du temps. Dieu, lui, est éternel. Il n'a pas de centimètre ou de kilomètre, pas d'hier ni de demain. Tout est l'éternité avec lui. Et nous essayons d'abaisser la grande pensée infinie de Dieu à notre petite pensée limitée. Et oh, nous nous embrouillons. Ainsi, la meilleure chose à faire en lisant sa parole, c'est de se souvenir que sa parole ne se contradira jamais. J'ai été dans le ministère pendant 31 ans et j'ai offert toutes sortes de gages à quiconque pourrait me montrer un passage de l'Écriture qui en contredirait un autre et qui ne pourrait pas être mis en lumière par la parole de Dieu. C'est vrai, quand les gens vous disent que la parole se contredit, dites-leur qu'ils ne savent pas de quoi elle parle. Dieu l'écrivait en énigme et en parabole afin de la cacher aux yeux des sages et des intelligents et de la révéler à des enfants prêts à la recevoir. Jésus remercia le Père pour avoir agi ainsi. Est-ce vrai? Vous ne le recevez pas comme vous lisez un journal. C'est par une révélation spirituelle. Et c'est révélé à ceux qui sont intéressés à apprendre. Vous ne l'apprendrez jamais dans une école. Vous ne l'apprendrez jamais par de la théologie. Cela doit être connu par révélation. Parce que la Bible entière, tout le plan de salut, est basé sur une révélation de Jésus-Christ. Savez-vous cela? Quand il descendit de la montagne, il demanda, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les gens disent que tu es Élie, Moïse ou l'un des prophètes. » Et il dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'Église catholique romaine dit qu'il parlait de Pierre, d'après la signification de son nom. Si c'est le cas, il rétrograda immédiatement après cela. Ainsi, nous voyons quelle espèce d'Église nous serions. Puis, l'Église protestante dit qu'il l'a construite sur lui-même. Si vous remarquez la parole, ce n'était pas sur lui-même, le rocher, non. C'était sur la révélation spirituelle de lui-même qu'il fut donné à Pierre. La même chose arriva dans l'Éden. Comment Abel sut-il que c'était un agneau au lieu des fruits des champs? Par une révélation spirituelle, voyez-vous. Cela a toujours été par une révélation spirituelle. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oh, laissez-moi dire ceci ce soir, amis chrétiens. C'est là où beaucoup de gens sont empêchés de voir le message de Dieu. C'est là que beaucoup de gens sont empêchés de voir la vérité. La vie devient une énigme pour eux. Quelqu'un me dit, il n'y a pas longtemps, un grand homme, il dit, Jean doit avoir mangé, je crois, du poivre rouge ou quelque chose comme cela, ou il a eu un cauchemar sur l'île de Patmos. Je dis, honte à vous, c'est sacrilège de dire une telle chose contre la parole de Dieu. Le tout est le véritable plan de Dieu, non pour la paix. Mais soyez simplement sensible à l'Esprit de Dieu, et laissez-le vous le révéler. Il le révélera aux enfants qui sont prêts à apprendre. Quand nous en arrivons au point où nous confessons que nous ne savons rien, et que nous laissons simplement son Esprit accomplir sa volonté au travers de nous, alors il nous enseignera. Mais que nous en savons tellement qu'il ne veut pas nous enseigner, alors nous ne pouvons arriver à rien. Et je pense, aujourd'hui, que s'il n'y a jamais eu un temps où cette nation a été appelée à prier, pas simplement pendant une heure, pendant quelques instants de prière silencieuse quelque part, mais elle a besoin de faire jour après jour, semaine après semaine, de réunions de prière dans tout le pays, jusqu'à ce que Dieu réponde et ferme tous les débits d'alcool, fasse disparaître toutes les compagnies de tabac, se débarrasse de tout le péché, fasse que les femmes se rhabillent, et tous les hommes agissent comme des gentlemen et retournent à l'église pour y avoir des réunions de prière à l'ancienne mode, comme nous en avions. C'est la seule façon pour qu'une fois nous puissions avoir la paix. Je sais qu'ils ne le feront pas parce que la Bible dit qu'ils ne le feront pas. Et ils ne le feront pas. Nous devons affronter les temps de la fin, et pour vous, l'église ce soir, préparez-vous, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure de son apparition. Inclinons nos têtes maintenant avant d'ouvrir la parole pleine de grâce de notre Seigneur pour la lire. En vérité, Père Céleste, tu connais chaque mot et chaque parole est enregistrée. Et nous voyons aujourd'hui dans nos cœurs le zèle de la grande Église du Dieu vivant. Alors que nous voyons l'heure de la venue du Seigneur approcher, et nous savons que tu as prédit que l'Église serait tiède, que tu la vomirais de ta bouche parce qu'elle n'est ni bouillante ni froide. Ô Dieu, c'est pourquoi le véritable serviteur de Dieu, son cœur réclame un réveil. Nous pensons aux grands hommes dans le pays aujourd'hui qui consacrent leur vie entière. Renonce à tout pour essayer d'inviter l'Église à revenir. Et c'est là l'avertissement de Dieu. Et Père, je te prie ce soir, au nom du Seigneur Jésus, d'envoyer un réveil ici à Klamath Falls et au travers de ce pays, et que cela soit un réveil conduisant les âmes au salut, qui secoue l'Église, afin que tous les saints du Dieu vivant commencent à prier et à jeûner, car il est écrit, « Si mon peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et prie, alors j'écouterai des cieux. » Accorde-le, Seigneur, ce soir, afin que ce sentiment avachi, froid et indifférent que les gens commencent à avoir dans l'Église, y venant par habitude, croyant de cette façon lui appartenir, ô Dieu, brise ce vieux sentiment égoïste, faussement satisfait, Seigneur. Nous te prions de leur donner la dose satisfaisante d'un rebaptême du Saint-Esprit et remplis leur cœur et leur âme de feu. Puisqu'il y avoir de grandes campagnes de guérison et de grands réveils au travers du pays. Puissent les malades être guéris. Nos regards se posent ici, ce soir, sur les gens qui sont étendus sur des brancards et des lits, et sur ceux qui sont dans l'auditoire souffrant de maladies de cœur, de cancer. Seigneur, essayons de recevoir cette foi quelque part pour être guéris. Fais-leur connaître que tu es celui qui nous guérit de toutes nos afflictions. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Accorde le Seigneur ce soir, et puissent les gens ce soir sentir l'onction du Saint-Esprit. Puis cela s'ancrer dans chacun des cœurs, puis cela être si clair pour nous ce soir, il n'y aura pas un seul pécheur au milieu de nous, ou de rétrograde. Et puisse-t-il ne pas rester une seule personne malade ou faible à la fin de ce service. Accorde-le, Père, bénis ta parole. Et alors que nous parlons de la discipline de l'Église, Seigneur, nous te prions d'oindre la parole. Et puisse cela t'être agréable, car nous te le demandons au nom de Jésus et par amour pour lui. Amen. Comme texte, ce soir, je veux prendre une partie du chapitre 17 de Matthieu et les derniers mots du verset 5. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et si le Seigneur le veut, je désire utiliser ou tirer en contexte des deux derniers mots du verset 5. Écoutez-le. Deux mots. Comme je l'ai dit hier soir, ce sont de très petits textes. Mais c'est tout ce dont nous avons besoin de connaître. C'est la valeur. Si nous faisons simplement comme ce petit texte nous le demande, alors il n'y aura pas une seule personne désappointée dans ce bâtiment ce soir. Simplement, écoutez-le. Quoi qu'il dise, vous le faites. Et alors, si vous êtes malade, écoutez-le. Si vous êtes un pécheur, écoutez-le. Si vous avez un besoin, écoutez-le. Il a tout ce dont vous avez besoin dans ce voyage. Il a cela pour vous et il attend pour vous le donner. Le prix est déjà payé. Il n'y a pas de prix à payer pour cela. Simplement, écoutez-le. Écoutez ce qu'il a à dire. Bien que cette portion de l'Écriture soit courte, néanmoins, ces deux mots seraient suffisants pour envoyer un réveil tout autour du monde et sauver chaque personne qui s'y trouve. Il y a quelques années, j'ai lu un petit article publicitaire dans une revue. Je crois que c'était au sujet de l'essence Sinclair, ou d'une certaine marque d'essence éminente. Il disait que 4 litres d'essence Sinclair, dans un certain type de machine, si elle pouvait être construite assez solidement, pourrait soulever le Sphinx à 25 cm du sol. Et je pensais, oh, comme la compagnie Sinclair aime à se vanter de la puissance de son essence, et tout ce que peut faire un petit rien. Et je pensais alors, ce soir, qu'une goutte du sang de Jésus-Christ peut retirer chaque pécheur du limon infect où il se trouve, et libérer tout hôpital de la maladie, fermer toutes les prisons et les pénitenciers, vider toutes les maisons d'aliénés de ces malades et affligés, et apporter la joie au monde entier. Avec une seule goutte du sang du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, venant à une réunion et choisissant un petit texte comme celui-ci, souvenez-vous que je le fais avec tout ce qu'il y a dans mon cœur, avec prière, essayant de trouver ce que le Saint-Esprit désire que je dise ou que j'enseigne aux gens. J'ai souvent dit que si je pouvais seulement tenir une goutte du sang de notre Seigneur Jésus dans un récipient, combien je la tiendrais précieusement dans mes mains et le presserais contre mon cœur, en m'écriant, « Oh Père, je tiens maintenant le sang du Seigneur Jésus contre mon cœur. » Quelle émotion, quelle joie et quelle bénédiction ce serait pour moi de tenir dans un petit verre une goutte du sang du Seigneur Jésus. Mais vous savez qu'à ses yeux, j'ai quelque chose de plus grand ce soir. Je vous presse sur mon cœur, vous qui avez été rachetés par son sang. Il vous a estimé plus qu'il ne l'a fait de son propre sang, parce qu'il l'a donné pour vous sanctifier et vous amener dans sa présence. Oh, ce sont les petites choses. Ce ne sont pas les grandes choses que nous faisons. Ce sont les petites choses que nous négligeons. Je parlais hier soir au sujet du petit timbre postal. Et je parlais du roi George, de feu le roi George d'Angleterre, quand il traversa la Colombie-Britannique et qu'il passa à Vancouver. Toutes les écoles se fermèrent pour permettre aux enfants d'aller voir le roi. Les Canadiens, voulant montrer leur fidélité à leur roi, donner à tous les petits-enfants un petit drapeau britannique pour se tenir dans les rues. Au passage de Sa Majesté, le roi, il devait agiter ses petits drapeaux pour montrer qu'ils étaient pour lui. Ils étaient ses sujets. Et les professeurs envoyèrent tous leurs enfants, et quand le roi eut passé, les petits-enfants d'une certaine école rentrèrent, excepté une toute petite fille. La maîtresse était très inquiète. Elle appela les enfants plus âgés et leur dit, « Qu'est-il arrivé à la petite Marthe ?» Car ils ne pouvaient pas la retrouver. Ils dirent, « Il était dans le même groupe que nous, mais ils ne pouvaient toujours pas la retrouver. » Et la maîtresse courut tout affolée dans les rues et commença à chercher cette petite fille qui n'était pas rentrée. Après que chacun se soit retiré, que les rues se soient vidées, après que les gens aient chanté en suivant le roi, « Dieu sauve le roi !» Ils trouvèrent enfin la petite fille debout derrière un poteau de téléphone, sa petite tête appuyée contre sa main, pleurant à chaudes larmes. La maîtresse la soulevant lui dit, « Marthe, mon petit chou, pourquoi pleures-tu? N'as-tu pas agité ton drapeau à la vue du roi ?» Elle répondit, « Oui, mademoiselle, j'ai agité mon drapeau. » Elle dit, « Alors, n'as-tu pas réussi à voir le roi ?» Elle répondit, « Oui, mademoiselle, j'ai vu le roi. » Elle dit, « Alors, pourquoi cries-tu ainsi, ma chérie ?» Elle répondit, « Vous savez, mademoiselle, j'ai vu le roi, mais j'étais si petite que lui ne m'a pas vue. Ce n'est pas ainsi avec notre roi, Jésus. Peu importe combien vous êtes petit ou le peu que vous faites, vous ne pouvez pas faire la plus petite chose sans qu'il en soit parfaitement au courant. Il connaît tous les petits chagrins, toutes les petites souffrances que vous supportez, tous les petits désappointements que vous avez. Peu importe combien c'est petit, il est néanmoins au courant de tout. Vous savez que notre Seigneur se rencontre au milieu d'hommes. Parfois, il se trouve au milieu de grands groupes d'hommes. Parfois, il s'entretient avec quelques-uns. Il nous est rapporté qu'une fois après sa résurrection, il était avec 500 personnes. Une autre fois, il se trouvait avec 70, puis avec les 12, même avec 3, et ensuite, il arriva qu'il n'était qu'avec un seul homme. C'est ce qui le fait Dieu pour moi. C'est à cause de son humilité. J'ai eu le privilège de beaucoup voyager et de rencontrer de grands hommes. Quand je rencontre un homme qui essaie d'être grand, vous pouvez toujours classer cet homme. Il ne vaut pas grand-chose. Les grands hommes, ce sont ceux qui essayent de vous faire penser que vous êtes celui qui est grand. Mais un homme qui veut être grand, si vous l'examinez jusqu'au fond, vous découvrirez que c'est un prétentieux. Je ne dis pas cela pour être blessant. Mais un groupe de frères méthodistes qui venaient de recevoir le Saint-Esprit vinrent à l'église où j'étais le pasteur. Ce sont de grands hommes qui vivent dans l'Indiana. Ils dirent, « Frère Branham, après que nous ayons reçu le Saint-Esprit, nous avons lu certains livres. Devrions-nous nous attendre au Seigneur et rechercher le Seigneur pour qu'il nous dise quel est notre ministère ?» Je répondis, « Ne le faites pas. » Il dit, « Mais le livre disait. » Je dis, « Mais attendez une minute, frère. Si vous prenez des hommes qui sont tellement zélés qu'ils veulent toujours faire quelque chose, Dieu ne peut pas avoir confiance en eux. » Remarquez, dans la Bible, l'homme que Dieu utilisait, c'était l'homme qui essayait de se soustraire à cela. Voilà celui que Dieu utilisa. Prenez par exemple Paul, Moïse, etc., qui essayèrent de fuir loin de leur appel. Si Dieu demande à un homme de faire une certaine chose et que celui-ci soit si zélé à ce sujet, vous verrez tout à coup qu'il sera si gonflé. Mais si un homme ne veut pas faire une certaine chose, peut-être que Dieu peut l'utiliser en tout cas pendant un certain temps, s'il peut en tirer quelque chose. Mais l'homme qui veut partir dans le monde pour proclamer l'Évangile avec force, pour le secouer, généralement Dieu ne peut pas avoir confiance en lui, parce qu'il veut le faire lui-même. Il s'y prend à sa manière à lui. Si un homme ne veut pas partir, alors Dieu doit presque l'y obliger. C'est le genre d'homme que Dieu utilisait généralement dans l'Écriture. Je leur dis, vivez pour lui, aimez-le de tout votre cœur. Elle vous placera à l'endroit où il désire que vous soyez. C'est vrai. Nous essayons de prendre parfois la place des uns ou des autres. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons toujours rester là où Dieu nous a appelés. Maintenant, j'aimerais dire ceci, ce soir, au sujet de la lecture de cette Écriture, du chapitre 17, que lorsque vous serez chez vous, je souhaite que vous lisiez ce chapitre en entier. Ainsi, nous voyons que Jésus était sur le point de faire quelque chose de grand. et quand un grand événement allait arriver, et quand Dieu se prépare à faire de grandes choses, la première chose que Dieu fait généralement, c'est de le révéler en-dessus dans les cieux. Il déclare toujours ses œuvres dans les cieux avant de le faire sur la terre. Par exemple, à la naissance du Seigneur Jésus, qui fut le premier à venir? Quelle chose le déclara premièrement? Une étoile commença à traverser le ciel. Les mages, les trois mages, venant de l'Inde, parcoururent tout le chemin depuis l'Est jusqu'à Jérusalem. Quand j'étais en Inde, vous pouviez toujours les voir assis dans les rues. On les appelle les hommes sages ou les mages, parfois même les contemplateurs d'étoiles. Ainsi Dieu déclare toujours les choses dans le ciel avant de le faire sur la terre. Et ceci était un événement spécial. Plus tard dans sa vie, Pierre s'y réfère comme étant la montagne sainte. Je ne crois pas que l'apôtre voulait dire que la montagne était sainte, parce que ce n'était qu'une montagne. Des batailles avaient eu lieu là. Et tout le reste, ce n'était pas une montagne sainte, mais c'était un Dieu saint sur la montagne, pas la montagne sainte. Nous entendons tellement parler aujourd'hui de la Sainte Église ou du peuple saint. Il n'y a pas de Sainte Église ou de peuple saint. C'est le Saint-Esprit dans les gens qui fait la sainteté. Ce n'est pas la Sainte Église ou le peuple saint. C'est le Saint-Esprit dans l'Église. À cette occasion, Dieu choisit trois personnes pour rendre témoignage. Il prit à part Pierre, Jacques et Jean. Et si vous remarquez, toujours quand il partit pour faire quelque chose de grand, il prit ces trois. Je me demande pourquoi. Pierre, Jacques et Jean. L'espérance, la foi et la charité. Les trois plus grands des dons de Dieu. L'espérance, la foi et la charité. Jean était premièrement l'amour, la charité. Jean, l'espérance, et Pierre, la foi. Il prit l'espérance, la foi et la charité pour placer en eux ce qu'il allait faire. Nous voyons que lorsqu'il monta à cet endroit, qui fut appelé plus tard la montagne sainte ou le lieu saint où se tenait Dieu, nous voyons que lorsqu'ils arrivèrent sur la montagne, il y en avait trois venant du ciel pour rendre témoignage. Il y avait sur la montagne Moïse, Élie et Jésus. Puis, sur la terre, il y avait trois créatures de la terre, Pierre, Jacques et Jean. Et là, il y avait Moïse, Élie et Jésus. Trois témoins dans le ciel, trois témoins sur la terre. Quand Dieu se prépare à faire quelque chose, il a toujours quelqu'un pour en témoigner. Je suis si content qu'aujourd'hui, nous pouvons regarder autour de nous, avant la venue du Seigneur, et voir les témoignages de son apparition. Les signes dans l'Église, de l'imminence de son avènement. Voir sa parole accomplie mot par mot jusqu'au dernier signe qui devait être donné à l'Église avant l'apparition du Seigneur Jésus et qui agit maintenant dans l'Église. La dernière chose. Souvenez-vous qu'il a dit « Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Regardez comment les pécheurs agissaient dans Sodome. Regardez ce que l'ange de l'Éternel fit lorsqu'il descendit pour en rendre témoignage. Observez ce que firent les trois anges, tous les trois. Regardez le monde aujourd'hui dans son péché. Regardez l'Église aujourd'hui dans sa condition comme Lot. Regardez l'Église appelée qui a des ennuis comme Abraham. L'homme ou la femme aujourd'hui qui essaie de vivre pour Dieu doit lutter pour continuer à avancer. Vous devez persévérer pour entrer dans le royaume de Dieu. Oh, combien c'est malheureux. Regardons ce qui en est. Remarquez que là en bas, il y avait le pécheur. Regardez ce qu'était le péché. Les hommes s'étaient souillés à tel point qu'ils avaient changé l'usage naturel de la femme contre un autre contre nature. Regardez le monde aujourd'hui. Tellement de péchés se sont glissés dans l'Église et dans la nation, si bien que c'est miné par le péché. C'est vrai. Je sais que cela semble démodé. Il n'y a pas longtemps, un prédicateur m'a pris à part et m'a dit, « Frère Branham, savez-vous pourquoi votre ministère n'est pas le plus grand en Amérique aujourd'hui ?» Je répondis, « Peu m'importe ce qu'il est en Amérique. Je veux savoir ce qu'il est sur les livres du ciel, ce qu'il est là-haut. » Il dit, « Je vais vous le dire. C'est parce que vous faites tellement de reproches aux gens. Vous les réprimandez et cela les blesse. Si vous arrêtiez simplement de faire cela, votre ministère grandirait, etc. Je lui dis, monsieur, laissez-moi vous dire quelque chose. S'il s'agit pour moi de compromettre la parole de Dieu, alors j'arrêterai. Je quitterai mon ministère et je laisserai Dieu appeler à quelqu'un d'autre pour le faire. Comment pouvez-vous vous taire? Si vous voulez être honnête, soyez honnête. Nommez-moi dans n'importe quel âge. Vous m'appelez un prophète. Je ne m'appelle pas. Vous l'avez dit vous-même. Vous êtes celui qui l'avait dit. Ainsi, si le Seigneur me voit pour faire quelque chose, alors comment pourrais-je me taire? Je sais que cela semble démodé. Il n'y a pas longtemps, un prédicateur m'a pris à part et m'a dit, « Frère Branham, savez-vous pourquoi votre ministère n'est pas le plus grand en Amérique aujourd'hui ?» Je répondis, « Peu m'importe ce qu'il est en Amérique. Je veux savoir ce qu'il est sur les livres du ciel, ce qu'il est là-haut. » Il dit, « Je vais vous le dire. C'est parce que vous faites tellement de reproches aux gens. Vous les réprimandez et cela les blesse. Si vous arrêtiez simplement de faire cela, votre ministère grandirait, etc. » Je lui dis, « Monsieur, laissez-moi vous dire quelque chose. S'il s'agit pour moi de compromettre la parole de Dieu, alors j'arrêterai. Je quitterai mon ministère et je laisserai Dieu appeler à quelqu'un d'autre pour le faire. Comment pouvez-vous vous taire? Si vous voulez être honnête, soyez honnête. Nommez-moi dans n'importe quel âge. Vous m'appelez un prophète. Je ne m'appelle pas. Vous l'avez dit vous-même. Vous êtes celui qui l'avait dit. Ainsi, si le Seigneur me voit pour faire quelque chose, alors comment pourrais-je me taire? Comment pouvez-vous le faire? Quelqu'un doit s'élever contre cela. C'est vrai. Dieu peut de ses pierres susciter des enfants à Abraham. Mais nous devons être honnêtes et dire la vérité à ce sujet. Avez-vous remarqué? Oh, certainement. Le ministère en Amérique n'est pas comparable à ce qu'il est outre-mer. Certainement pas. Parce que l'Amérique est un territoire complètement brûlé. Il est fini. Il a été ratissé d'un bout à l'autre. Jésus a dit, le royaume est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant toutes sortes d'animaux. Parfois, il contenait des écrevisses, des serpents, des lézards, des grenouilles et du poisson. Après un certain temps, vous n'avez plus qu'un filet rempli de lézards et de grenouilles. Tout le poisson a déjà été attrapé. Ainsi, nous pêchons simplement la Seine jusqu'à ce que le dernier soit attrapé. Et alors, Jésus vient. Comment savons-nous qui ils sont? Vous jetez simplement le filet de l'évangile et vous le retirez. C'est pourquoi je viens goûter mes frères. Je me tiens quelque part dans un coin et je jette le filet avec eux. Par mon ministère, je jette le filet et nous le retirons ensemble. Les voilà, frères. Qu'est-ce? Mais ici, c'est un territoire complètement brûlé. Avez-vous remarqué, il y a des années que je suis venu pour la première fois dans l'Oregon, les gens venaient de partout. Des milliers se pressaient pour entrer. Oh, c'était bien. Je priais simplement pour les malades. Mais quand je suis revenu et que j'ai commencé à exposer la vérité, exposer l'évangile, oh, beaucoup se détournèrent. Comparez cela avec notre Seigneur. Quand il guérissait les malades et les affligés, beaucoup vinrent à lui. Quand il nourrit 5000 personnes, beaucoup vinrent. Mais quand il commença à leur dire la vérité, qu'arriva-t-il? Tous commencèrent à se détourner. Même les 70 se détournèrent. Alors Jésus dit aux disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Et Pierre prononça ces merveilleuses paroles, « À qui irions-nous? » Voyez-vous? Mais cela n'arrêta pas ces miracles. Il continua comme avant. Quelques jours après cela, il ouvrit les yeux d'un homme qui n'avait même pas de globe oculaire dans ses orbites. Ses miracles devinrent plus grands, mais les foules diminuèrent et sa popularité diminua jusqu'à ce que finalement ils le crucifièrent. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, cela sera exactement pareil, parce que l'Esprit de Dieu est le même, et les gens restent les mêmes, c'est vrai. Ainsi nous voyons qu'il prit ces hommes pour rendre témoignage de ce qu'il allait faire. Il y avait une certaine chose qui allait arriver. Quand Dieu réunit ses témoins, ce qu'il allait faire là, c'est ce que nous appelons le placement d'un fils. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que quand un homme avait un grand royaume et qu'un fils venait au monde, ce fils était bien sûr un fils dès sa naissance. Mais cependant, il n'avait pas d'héritage avant qu'il soit placé ou adopté dans la famille. C'est appelé l'adoption. Cela paraît étrange, mais c'est ici, à ma connaissance, que l'Église pentecôtiste a déboîté ou s'est arrêtée, plutôt que de continuer. Je suis aussi pentecôtiste, et si je n'avais pas le Saint-Esprit, je ne serais pas ici à vous parler de cela. Et si je ne vous aimais pas, je ne vous en parlerai pas. Mais regardez, quand un fils naissait, dans la vieille famille orthodoxe, où le père était très absorbé par son travail, le fils était un fils dès sa naissance. C'est pareil pour l'église pentecôtiste. Dès sa naissance, ou n'importe quelle autre église, quand elle naît dans le royaume de Dieu, ils deviennent des filles, des fils et des filles de Dieu. Mais nous nous arrêtons là. Quand l'église pentecôtiste reçut les dons de parler en langue, d'interpréter, ils s'arrêtent là. Ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter. C'est seulement l'endroit où ça commence. Mais nous avons partout des sources qui n'ont pas été drainées. Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Chaque promesse dans la Bible nous appartient. Mais le problème, c'est que nous pouvons aller vers nos concitoyens du royaume de Dieu, nos frères méthodistes et baptistes. Vous pouvez leur parler de la guérison divine, de la puissance de Dieu, mais ils se référeront à ce qui est du passé, disant, « Qu'a dit Moody à ce sujet? Qu'a dit tel autre à ce sujet ?» Les frères pentecôtistes disent, « Eh bien, ce que nous avons reçu dans le passé, que nos ancêtres l'ont reçu il y a 50 ans, ne regardez jamais en arrière, regardez en avant, regardez toujours en avant. » La science n'agit pas ainsi. La science, dans ses recherches, trouvera Dieu avant le prédicateur si nous ne faisons pas attention. C'est vrai. La science, il y a environ 300 ans, un savant français a prouvé, en faisant tournoyer une balle comme la Terre, que si un homme s'était prouvé scientifiquement, si une personne pouvait se déplacer à la vitesse terrifiante de 55 km à l'heure, la gravitation la ferait décoller de la Terre. Maintenant, pensez-vous que la science moderne écouterait cela? Certainement pas. Ils ont atteint 3200 km à l'heure et ne s'arrêtent même pas à cela. Ils continuent. Et nous, nous essayons de regarder en arrière pour voir ce que quelqu'un d'autre a dit. Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Nous avons les sources non drainées de Dieu à notre disposition pour manifester Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Dieu fit l'homme. Il fit de lui un Dieu. Il lui donna la domination sur la terre. Mais son état de chute lui fit perdre cela. Toutefois, ce qui fut perdu par Adam fut restauré par Christ. Il dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, si vous ne doutez pas en votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il a restauré cela, tout ce qui était perdu en Adam. Mais aujourd'hui, nous pensons que si nous allons à l'église, si nous mettons notre nom sur le livre, si nous sommes immergés ou aspergés, si nous serrons la main à la congrégation, au pasteur, c'est réglé. Et ensuite, nous arrivons à la Pentecôte, nous recevons le Saint-Esprit, il tombe sur nous et nous commençons à crier, à louer Dieu. La puissance de Dieu descend, nous avons parlé en langue, nous les avons entendus interpréter et faire de grandes citations, etc., et donner des prophéties. Cela paraît bien, mais nous nous sommes arrêtés. C'était que le commencement. Continuez à avancer toujours plus loin. Dieu compte sur nous. Quand ce fils naissait dans ce foyer, il avait une position de fils. Il était le fils de son père. Mais alors, que faisait ce père? Il n'avait pas le temps d'être avec ce fils. Il avait une grande affaire. C'est pourquoi il engageait un tuteur, un éducateur, un précepteur. Et il parcourait le pays jusqu'à ce qu'il trouve l'homme adéquat parce qu'il s'agissait de son enfant. Et il voulait que cet enfant soit bien élevé parce que celui-ci hériterait un jour tout ce qu'il possédait. Ainsi, il cherchait partout jusqu'à ce qu'il trouve l'homme désiré. Par un de ces hommes en quête de compliments, disant par exemple un mensonge tel que « Oh, votre enfant va très bien !» quand ce n'était pas le cas. Il devait faire un rapport sur les progrès de cet enfant. C'était le placement d'un fils. Vous, prédicateur qui êtes ici, comprenez et savez de quoi je parle. Le placement d'un fils. Paul, dans Galates, etc. Le placement d'un fils dans l'Ancien Testament. Je pense que le roi Jacques avait la pensée des traducteurs quand il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père ». La maison était un domaine, et dans la maison du Père, comme dans l'Ancien Testament, dans la maison du Père, il y avait beaucoup de serviteurs qu'il devait visiter dans leur travail. C'est pourquoi il n'avait pas le temps d'enseigner son fils. Il devait engager quelqu'un d'autre pour le faire à sa place, un homme droit. Et c'est ce que Dieu nous montre ici, sur ce que nous appelons la montagne de la transfiguration. Ce qu'il faisait lui-même, Dieu n'a jamais demandé à un homme de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait lui-même. Souvenez-vous-en. Dieu ne vous demanderait pas de faire quelque chose à moins qu'il ne l'ait fait lui-même d'abord. Ainsi remarquez, quand ce fils atteignait l'âge scolaire, le tuteur partait avec le fils et restait avec lui quelque part. Et de là, renseignait le père sur les progrès de son fils. Si le fils était lent à agir et qu'il ne s'occupait pas des affaires du père, alors combien ce tuteur devait avoir honte d'aller au devant du père et de lui dire, « Monsieur, j'ai le regret de vous annoncer que votre fils ne va pas très fort. Il ne veut pas apprendre. Il n'a pas d'intérêt. Ainsi Dieu, quand il quitta la terre et son église, il choisit un tuteur pour son église. Il prit un précepteur, quelqu'un qui serait honnête et qui dirait la vérité. Le genre de précepteur souhaité, ce n'était pas un archevêque, un pape ou un surveillant général, mais il envoyait le Saint-Esprit pour être le surveillant et le tuteur de l'église. Mais nous avons adopté des évêques et tout le reste comme tuteurs de l'Église. Ce n'est pas le programme de Dieu. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Le Saint-Esprit est le tuteur de l'Église. Nous avons adopté toutes sortes d'idées, toutes sortes d'écoles et de théologies, alors que c'est le Saint-Esprit qui devrait nous conduire. C'est la raison pour laquelle l'Église est dans une telle condition ce soir. Elle est conduite par l'homme et non par l'Esprit. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit conduire l'Église. L'homme peut dire n'importe quoi, mais le Saint-Esprit dira la vérité à votre sujet. Ainsi ce soir, comment pensez-vous que le Saint-Esprit doit se sentir quand il doit venir devant le Père et dire « Père, ô ton Église ». Tu sais quoi? Ton Église, la moitié ne vient même pas à l'Église le dimanche. Non. Le mercredi soir, ils restent à la maison pour regarder « Nous aimons Suzy » ou quelque chose comme cela à la télévision. Tu sais? Ils aiment les choses du monde et les plaisirs plus que la puissance de Dieu. C'est vrai. Maintenant, je n'ai rien contre la télévision. On y voit de belles choses. Mais quand un chrétien reste à la maison pour voir une pièce stupide comme ça, au lieu d'aller à l'église, il y a quelque chose qui est arrivé dans la vie de cette personne. Le Saint-Esprit est sorti quelque part. Vous ne vous occupez pas de l'affaire du Père. Que pensez-vous qu'il fait quand il vient devant le Père et qu'il doit dire que ses filles, ses enfants, ces ravissantes filles portent des vêtements immoraux qu'ils appellent des shorts. Ces filles. J'ai dit cela il n'y a pas longtemps et une femme va me dire, écoutez, frère Branham. Elle me rencontra derrière le bâtiment. Elle dit, écoutez, frère Branham, je ne porte pas de shorts. Je répondis, c'est très bien. Elle dit, je porte des pantalons. Je dis, c'est pire. C'est vrai. La Bible dit que c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement appartenant à un homme. Dieu ne change pas. Il fit un homme pour ressembler à un homme et une femme pour ressembler à une femme. Mais aujourd'hui, les hommes sont efféminés, ne savent même pas comment s'habiller. C'est vrai. Et les femmes, les filles de Dieu, fument des cigarettes. C'est le plus grand sabotage que le monde ait jamais vu. Je n'ai pas peur que la Russie fouette l'Amérique. L'Amérique se fouette elle-même. Ce n'est pas le rouge-gorge qui picote la pomme qui lui fait du mal, mais c'est le ver qui est à l'intérieur, qui est au cœur de la pomme qui la tue. C'est ce qui arrive avec les églises aujourd'hui dans ce pays. Il y a le péché jusqu'au cœur. Loin de Dieu. Une dame me dit, frère Branham, ils ne font plus d'habits. Nous devons porter ces sortes d'habits. Sœurs, ils font toujours du tissu et des machines à coudre. Il n'y a pour cela aucune excuse. Que se passe-t-il? C'est un esprit impur qui est venu sur eux. De le temps, c'était faux pour nos femmes pentecôtistes de couper leurs cheveux. Maintenant, vous avez touché quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé? Quelqu'un a dit qu'elles avaient mal à la tête. Beaucoup de maux de tête. Vous savez que la Bible dit que si une femme coupe ses cheveux, elle déshonore son mari. Une femme sans honneur, ce n'est pas juste de vivre avec elle. Je ne dis pas que vous êtes méprisable, mais je dis que le diable, une poule mouillée à la chair, devrait être là-bas à appeler les cochons plutôt que de prêcher, car il a le devoir de dire la vérité afin que vous sachiez que faire. Amen. Est-ce vrai, frère? J'avais un vieil ami méthodiste qui avait coutume de chanter ceci. Nous avons ouvert les barrières, nous avons ouvert les barrières, nous avons compromis avec le péché, nous avons ouvert les barrières, les brebis sont sorties. Mais comment les boucs sont-ils entrés? Voyez-vous, où est le mal? Vous avez ouvert les barrières. Le vieux modèle du Saint-Esprit, démodèle leurs yeux, conduit l'Église et la guide dans toute la vérité. C'est la vérité. C'est peut-être démodé. Cela peut blesser un petit peu. Vous savez, quand j'étais un petit garçon, il y a une chose que je ne peux pas encore supporter, c'est l'huile de ricin. Simplement de la sentir, je peux être malade une semaine. Quand nous étions petits, maman avait coutume d'acheter chez le boucher de la peine de porc qu'elle faisait fondre dans une vieille casserole. Elle retirait la graisse pour faire des biscuits entiers, comme on les appelle, les biscuits de maïs. Et nous avions des pois à pois noirs et des navets. Ça, c'est bon à manger. Mais quand nous l'avions au dîner, au déjeuner, au souper, puis chaque samedi soir, nous devions tous prendre un bain. Je me souviens que maman, à cette occasion, sortait notre vieux baquet de cèdre et elle commençait à donner premièrement le bain au bébé. Or, nous étions 10. J'étais le dernier, et toujours la même eau. Elle ne faisait qu'en ajouter un peu pour la réchauffer. Et nous tous, qui allions à l'école, nous devions prendre une dose d'huile de ricin. Et quand c'était mon tour, je me pinçais le nez et disais, « Maman, maman, je t'en prie, ne m'en donne pas. Oh, cela me rend si malade. » Et ma brave maman méridionale de répondre, « Mais regarde, Billy, si cela ne te rend pas malade, cela ne te fera pas de bien. » Et c'est ainsi que je prêche l'évangile. Si ceci vous rend malade, cela réveillera peut-être votre gastronomie de la Bible et vous donnera un départ. C'est vrai, nous avons besoin du vieil évangile. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, du retour du Saint-Esprit et que toutes les stars de Hollywood et de la télévision soient mises dehors. Vous savez, madame, je vais vous dire quelque chose. Je reviendrai aux hommes dans quelques minutes. Mais madame, je veux vous dire quelque chose. Saviez-vous que c'est un esprit impur qui est venu sur vous? Savez-vous que lorsqu'une femme descend la rue habillée sexy, savez-vous que cette femme devra répondre pour avoir commis adultère? Elle est peut-être aussi pure qu'un lys vis-à-vis de son ami ou vis-à-vis de son mari. Mais la Bible dit, Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors si vous vous habillez comme cela et qu'un pécheur vous regarde de cette manière, au jour du jugement, quand il répondra pour avoir commis adultère, ce sera avec vous et ce sera votre faute parce que vous vous êtes présenté à lui ainsi. Vous ne reviendrez peut-être pas demain soir, mais vous allez l'entendre une fois au moins. Voyez-vous, c'est vrai. Voyez-vous, c'est vrai, c'est un esprit mauvais, impur. Et que pensez-vous que le Saint-Esprit ressent quand il vient devant le Père pour dire que ses enfants agissent comme cela? Il y a des années dans le Sud, il prenait les gens de couleur et les vendait comme esclaves. Cela n'a jamais été juste, non monsieur. Dieu créa l'homme et l'homme en fit des esclaves. Il passait et achetait ces pauvres gens, comme vous le feriez pour ici, sur le parc, à voiture usagée. Il rédigeait simplement un acte de vente et les vendait. Il y avait des courtiers qui passaient pour voir ces gens. Ils enlevaient à leurs femmes ces hommes solidement bâtis et les donnaient à une plus grosse femme pour produire de meilleurs esclaves. Vous souvenez-vous d'Abraham Lincoln, quand il enleva son chapeau, frappa du poing, dit « C'est faux et un jour je m'attaquerai à cela. » Oh Dieu, donne-nous de nouveau un président comme Abraham Lincoln. Oui. Quand il a dit cela, il avait raison. Je me souviens, il y a un certain temps, alors que j'étais dans l'Illinois et que je visitais un musée, je vis un vieil homme de couleur passée. Il n'avait qu'un cercle de cheveux derrière la tête. Il regardait par-ci, par-là, dans le musée, et tout à coup, il s'arrêta et fixa quelque chose. Il se redressa et commença à pleurer. Les larmes coulaient sur son visage. Il se mit à prier. Je l'observais pendant quelques minutes. Puis je me suis approché de lui et lui dis, « Bonjour, oncle. » Il répondit, « Bonjour. » Et je dis, « Je suis un prédicateur et j'aimerais savoir pourquoi vous avez prié. Qu'est-ce qui vous a ému ?» Il répondit, « Venez ici. » Il regarda dans une vitrine et il y avait là un vêtement. Je dis, « C'est un vêtement. Je ne vois là rien de troublant. Rien qui puisse faire sursauter un homme et le pousser à prier. » Il dit, « Mais regardez, j'ai encore les marques autour de moi d'une ceinture d'esclave. C'est le sang d'Abraham Lincoln. C'est son sang qui enleva de moi cette ceinture d'esclave. Cela ne vous m'ouvrait-il pas aussi ?» Je me dis, si le sang d'Abraham Lincoln peut mouvoir un esclave pour avoir été libéré de sa ceinture, que devrait faire le sang de Jésus-Christ quand il est prêché dans toute sa puissance, dans l'Église sainte qui prétend être née de nouveau? Que cela devrait-il lui faire? Un jour, quand il y avait, elle prenait des fouets et les fouettait pour les faire travailler. Ils remarquèrent un jeune homme dans une certaine plantation qui n'avait pas besoin d'être fouetté. Frère, il avait sa poitrine bombée, sa tête haute. Il avait raison. Et ce courtier dit, « J'aimerais acheter cet esclave. »« Oh !» me dit le propriétaire. « Il n'est pas à vendre. » Il dit, « Il est tellement différent des autres. »« Oui, » dit-il, « je le sais. » Il dit, « Je suppose qu'il est le chef responsable. » Il répondit, « Non, il n'est qu'un esclave. » Il dit, « Eh bien, il se peut que vous le nourrissiez mieux que les autres. » Il répondit, « Non, ils mangent tous ensemble, là-bas à la cantine. » Il dit, « Alors qu'est-ce qui fait qu'il soit si différent des autres ?» Et le propriétaire dit, « Je me suis aussi posé la question pendant longtemps et j'ai découvert que dans le pays d'où il vient, son père est le roi de la tribu. Et bien qu'il soit étranger dans un autre pays, loin de chez lui, il sait qu'il est le fils d'un roi. Elle se conduit comme tel. » Frères et sœurs, si un Africain dans un pays étranger a pu se conduire comme un fils de roi, ne devrions-nous pas, en tant que fils et filles de Dieu, agir comme cela et nous conduire comme des fils et des filles de Dieu, quand notre père est le roi? Alors les femmes devraient s'habiller comme des filles de Dieu. C'est vrai. Et les hommes? Oh là là! N'importe quel homme qui laisse sa femme porter des shorts et fumer la cigarette, j'ai une petite opinion de lui qu'il soit un homme. C'est vrai. Il est censé être le chef de la maison. Cela montre qu'il commande là-bas. Exactement. Oui, l'homme n'est pas jugé à ses muscles, mais la bête. L'homme est jugé par le caractère. J'ai vu un homme pesant 100 kilos qui avait tout ce muscle, mais qui n'avait pas un gramme d'homme en lui. Il retira un bébé des bras de sa mère pour la violer. Ce n'était pas là un homme, c'est une bête, c'est une brute. C'est à ton caractère que l'homme est jugé. Il n'y a jamais eu d'homme comme Jésus-Christ. Mais la Bible dit de lui, son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'était probablement un petit homme avec les épaules arrondies. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Mais il n'y a jamais de caractère comme celui-là. C'est ce qu'est un véritable homme. Ne jugez pas un homme à ses muscles, mais par les marques qu'ont laissé ses genoux au pantalon quand il priait. C'est ainsi que vous jugez un homme, par le caractère, c'est vrai. Oh, combien le Saint-Esprit doit rougir en venant devant le Père. Il peut dire, tu sais quoi, tes serviteurs font des compromis. Ils se mettent à dire que le temps des miracles est passé, que la guérison divine n'existe pas, et que nous n'avons pas besoin de tous ces cris, du parler en langue et des dons, que nous devons simplement être une église. Ils ont enlevé toute la gloire et la puissance de l'église, et peut-être en ont-ils fait une quelconque organisation. C'est en ordre. Aussi longtemps que l'organisation reste avec la puissance de Dieu, Dieu bénit cette organisation. C'est la raison pour laquelle je suis tantôt ici aujourd'hui, parce que je pense qu'elle détient plus de la puissance de Dieu que toute autre organisation que j'ai rencontrée. Mais si la puissance pentecôtiste quitte l'église pentecôtiste, j'irai avec elle. C'est vrai, certainement. Restez avec Dieu. Quand les Israélites suivirent la colonne de feu. Chaque fois qu'elle s'arrêtait, ils campèrent juste au-dessous d'elle. Martin Luther fut le premier à voir le feu quitter l'église romaine et sortit avec le feu sous la justification. Le juste vivra par la foi. Il bâtit son organisation. Il écrivit tous ses credos et mourut avec cela. Point. Ceci est tout ce que nous croyons. Ce sont les luthériens. Tout à coup, vous apercevez que la colonne de feu a commencé à se déplacer. Luther ne pouvait pas se déplacer avec elle. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà établi ses credos. Son église était organisée. Tout était construit là autour. John Wesley l'a vu. La sanctification, la seconde œuvre de la grâce. Il partit avec cela et embrasa complètement le monde. Il apporta la justification en Angleterre, en Amérique. Tous les grands hommes, un des plus grands réveils que nous n'ayons jamais eu, fut le réveil wesleyen. C'est l'un des plus grands que nous ayons jamais eu. Mais que fit-il? Après qu'ils eurent découvert la sanctification, ils construisirent avec cela l'organisation et eurent leurs propres idées. Nous, méthodistes, nous croyons ça, ça et ça et ça. Et ils mirent un point final à leur doctrine. C'est ce que nous croyons. L'ange du Seigneur sortit de là. Pourquoi les méthodistes ne purent-ils parler avec lui et que les pentecôtistes, eux, le virent, le baptême du Saint-Esprit, la restauration disant, ils les quittèrent aussi vite qu'ils le purent. Ils abandonnèrent les méthodistes dans l'ombre, les pèlerins de la sainteté, les nazaréens et ceux qui ne voulaient pas aller de l'avant. Et ils continuèrent avec cela. Et quand ils, maintenant qu'est-il arrivé à la Pentecôte, elle a construit son petit bateau. Mais la colonne de feu est sortie de là. Suivons-la. Prenez nos églises, prenez nos frères, prenons les luthériens, les baptistes, les méthodistes. La Pentecôte, comme je l'ai dit, n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience. J'étais un baptiste quand j'ai reçu la bénédiction pentecôtiste. Il y a des méthodistes, des luthériens et toutes sortes ici qui ont reçu le Saint-Esprit. Des catholiques, des juifs, des infidèles, quiconque est disposé à croire au Seigneur Jésus-Christ et à l'accepter dans la plénitude de sa puissance. Il est le tuteur de l'Église, c'est lui. Laissez le Saint-Esprit vivre dans l'Église et faire son chemin. C'est quand vous avez la véritable signification. Écoutez votre pasteur. Si le diable ne peut pas vous empêcher de voir ce que Dieu est en train de faire, il vous poussera dans les extrêmes avec cela. Il vous fera devenir un fanatique. Vous n'avez pas besoin de devenir fanatique. Il y a trop de réel et d'authentique pour devenir un fanatique. Oh, tous les cieux pentecôtistes en sont pleins. Mais écoutez votre pasteur, un homme envoyé de Dieu, un enseignant qui vous dira exactement ce qu'il faut faire parce que lui-même a été oint par le Saint-Esprit. Et observez-le, il restera tout à fait avec la parole. Il restera exactement avec ce que la parole dit. Et Dieu bénira cette parole. Peu importe où elle se trouve, il la bénira parce qu'il a promis de le faire. C'est vrai. Il restera parfaitement avec la parole parce que cette parole est vie. Et chaque fois que vous recevez la parole, vous recevez la vie. Prenez-la dans votre cœur et croyez-la comme étant votre propre bien. Chaque promesse vous appartient. Dieu vous a donné un carnet de chèques quand vous avez reçu le Saint-Esprit avec le nom de Jésus écrit en bas de celui-ci pour tout ce que vous désirez. Avez-vous peur de le remplir? Demandez ce que vous voudrez en mon nom. Dieu vous le donnera. J'aime cela. Oh, soyez là avec cette foi pure. Demandez, croyez, cela arrivera. C'est ainsi qu'il faut le faire. Ainsi, quand le Père s'avançait devant le ou quand le tuteur allait devant le père. Maintenant, souvenez-vous, il ne prendra pas quelqu'un qui essaierait simplement de tirer les ficelles et qui tirerait à la course paille. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est un bon garçon, c'est un bon payeur de l'église, et nous ne pourrons pas le renvoyer du comité des diacres. Bien qu'il ait été marié 3 ou 4 fois, nous ne pourrons pas le faire parce que c'est le soutien principal de l'église. Hein? C'est une entrave pour l'église, absolument. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une véritable et authentique église nettoyée et remplie du Saint-Esprit, débordant du Saint-Esprit, prête, remplie et ointe par le Saint-Esprit de Dieu. Oui, monsieur. Je crois que si nous ne le prêchons pas, Dieu suscitera des baptistes, des presbytériens ou quelqu'un pour le faire. Il le fera certainement, parce qu'il y aura là-bas une église sans tache ni ride. Il le fera. A dit, frère, secouons-nous, sortons de la poussière, secouons-nous, entrons dans la grande et vieille voie de l'Évangile et montons la route. C'est la seule chose à faire. En avant, soldats chrétiens, ce n'est pas le moment de se relâcher ou de prendre nos aises. Commençons à faire quelque chose pour le royaume de Dieu.
Amen.
Maintenant, nous voyons que si ce garçon était un bon garçon, alors qu'arrivait-il? Oh, combien le tuteur devait être réjoui. Il s'avançait devant le père et disait, « Père, je suis si content de te dire, tu sais que ton garçon est exactement comme toi. Tu sais que s'il lit ta parole, il dit, c'est exactement la vérité. C'est ce que mon père a dit. Mon père ne peut pas mentir. Je le crois tel qu'il l'a dit. » Oh, et le père de dire, « C'est bien là, mon garçon. » Voyez-vous, maintenant, c'est ce que Dieu veut faire de nous. Maintenant, si ce garçon naissait, maintenant écoutez, si ce garçon naissant dans un foyer en tant que fils, ne devenait pas le genre de fils souhaité, qui ne veut pas suivre les instructions de son père et s'occuper de ses affaires, ce garçon restait néanmoins un fils, mais il n'avait jamais droit à l'héritage. Le saviez-vous? Il ne recevait jamais point d'héritage. Il était un proscrit, tout en restant un fils. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes le fils ou la fille de Dieu, c'est vrai. Mais si vous n'obéissez pas à Dieu, si vous ne marchez pas dans la lumière, ne marchez pas dans la parole, ne croyez pas à Dieu, alors vous n'aurez pas d'héritage. C'est exactement ainsi que Dieu agit encore. Maintenant, remarquez ceci. Qu'arrivait-il si le garçon était un véritable gentleman? Il aimait sincèrement son père, aimait à s'occuper de ses affaires. Il aimait voir toutes les vignes alignées parfaitement, chaque homme à son poste où son devoir l'attendait. Et s'il trouvait un homme qui se défilait, il allait vers lui, posait sa main sur son épaule et disait, « Monsieur, vous êtes le serviteur de mon père. » Et l'autre jour, voyez-vous, elle commençait à lui montrer ce qui n'allait pas, exactement comme vous le feriez. Oh, le père disait alors, « Vous savez, j'aime vraiment ce garçon, c'est mon fils. » Comme on dit en Amérique, c'est bien le fils de son père, vous savez. « C'est mon garçon, je suis fier de lui. » Savez-vous ce qui arrivait quand ce garçon atteignait un certain âge? Ce garçon était alors adopté dans la famille. Que faisait-il? Il le conduisait sur une place publique. Après avoir revêtu une robe spéciale, ils avaient là une cérémonie en son honneur. Et tous les gens de la ville se rassemblaient tout autour pour voir ce garçon. Et le père, dans une cérémonie d'adoption, présentait son fils. Après, oh, ne manquez pas ceci. Après que ce fils était adopté, son nom sur le carnet de chèques devenait aussi valable que celui de son père.
Amen.
C'est à cela que Dieu essaye d'amener son Église. Dites simplement à cette montagne, ôte-toi de là, elle le fera. L'autorité des fils de Dieu, la création tout entière soupire, attendant la manifestation des fils de Dieu. Attendant le moment où, quand la maladie survivra, il en sera ainsi. Les aveugles recouvriront la vue, les sourds et les muets. Maintenant, nous prions pour eux, mais alors vous commanderez.
Amen.
Il n'a pas dit, ces signes suivront ceux qui auront cru, ils prieront pour les malades. Non, il a déclaré, ils chasseront les démons. Pas je chasserai, ils chasseront.
Amen.
Si vous dites à cette montagne, pas si je dis, mais si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutiez pas dans votre cœur. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'adoption. Les fils et les filles de Dieu ont besoin de l'adoption. Mais comment l'Église pentecôtiste et les Églises méthodistes, baptistes, peuvent-elles être adoptées avant qu'elles viennent à la discipline? Vous devez être disciplinés premièrement. Dieu ne peut pas confier sa puissance à l'Église. C'est difficile de dire ce que vous feriez. Comment un père pourrait-il confier son affaire à un fils qui pourrait simplement polluer sa demeure dans le ciel. Il ne pourrait pas le faire. L'Église doit en arriver au point où elle est disciplinée. Dieu est occupé à cela en ce moment. La discipline, s'il sortait avec ce fils, faisait une cérémonie et disait, « Celui-ci est mon fils et je l'adopte dans ma famille. Désormais, quoi qu'il dira, je l'approuverai. » Dieu faisait la même chose là avec Jésus. Il faisait exactement ce qu'il leur avait demandé de faire. Voyez-vous, Jésus lui ayant été agréable, il le conduisit là-haut et prit trois témoins terrestres, Pierre, Jacques et Jean, l'espérance, la foi, la charité, et il fit descendre Moïse et Élie pour témoigner de cette grande adoption. Et qu'a-t-il fait? La Bible dit qu'il fut transfiguré et que son vêtement resplendit comme le soleil. Une robe spéciale. Amen. Une robe spéciale, une onction spéciale. Et quand ils levèrent les yeux, ils le virent resplendissant dans la gloire de Dieu. Une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Oh là là, ce que Dieu veut faire avec l'Église ce soir, ce qu'il veut faire avec un individu, c'est de trouver quelqu'un. Le Saint-Esprit cherche des hommes. Il peut le conduire dans un certain endroit, parler à cette personne, la oindre et lui donner quelque chose de spécial, une grande puissance et des dons pour accomplir sa volonté. Mais comment peut-il le faire quand il doit constamment venir et dire, « Oh, c'est terrible, il court après ceci, il court après l'erreur, il ne veut pas aller à l'Église. Regardez dans quelles conditions à l'Église. » Et si Dieu ne peut pas l'accomplir qu'au travers du corps, il choisira des individus pour le faire. Amen. Dieu peut de ses pierres susciter des enfants à Abraham. Remarquez, aussitôt que la première chose surnaturelle se produisit, Pierre était tellement comme le monde aujourd'hui. Aussitôt que le surnaturel se produisit, que le grand miracle se fut accompli, comme du temps de Moïse, il y avait une foule mélangée. Moïse descendit en Égypte, et une fois là-bas, qu'arriva-t-il? Il accomplit des miracles. Et cela a eu pour conséquence que les croyants et les incroyants se rassemblèrent tous, parce que les miracles excitent les gens. Ainsi, il y eut une foule mélangée qui partit avec eux. Et cette même foule mélangée, c'est cette même foule mélangée qui pollua le camp. Cette foule mélangée fut ce qui causa la ruine d'Israël dans sa maison. Et si ce n'est pas un type parfait de ce que nous voyons aujourd'hui, alors je ne comprends pas. Une foule mélangée, un mélange de croyants et d'incroyants. Prenez-les dans l'Église, aussi longtemps qu'ils viennent et sont baptisés, c'est tout ce qui est nécessaire. Mes frères, vous êtes censés être morts avant d'être enterrés. Des foules mélangées. Et Pierre devint tout excité. Et dit aussitôt qu'il vit le surnaturel, « Construisons ici trois tabernacles. » Luther fit la même chose, ainsi que Wesley et nos frères pentecôtistes et nous tous. « Oh, nous ferons telle chose pentecôtiste, et ceci et cela, nous ferons une organisation. » Eh bien, ceux-ci croient qu'il revient sur un cheval blanc. Quant à nous, nous croyons qu'il revient sur la nuée. Eh bien, laissez-le aller, vous n'êtes pas un des nôtres. Voilà, vous y êtes, le surnaturel s'accomplit. Et ensuite, le Seigneur a attribué des dons, et l'a envoyé des hommes, il n'y a pas longtemps, tels que notre cher frère Tommy Osborne, frère Robert et d'autres. A-t-il partir et quand le surnaturel commença à se produire, ils ne purent rester dans leurs organisations et continuer. A-t-il voulu ramener une dernière pluie, une première pluie, une pluie intérieure, une pluie extérieure? Oh là là, pluie. Qu'est-ce? Quand le surnaturel se produit, cela réunit une foule mélangée. C'est vrai, cela excite les gens. Une foule mélangée alla avec lui. Maintenant écoutez, alors que Pierre parlait encore, comme il prononçait ces paroles, « Construisons trois tabernacles, un pour Moïse, un pour Élie et un pour Jésus. » Avant qu'il eût terminé de parler, observez ce que dit l'Écriture. « Comme il parlait encore, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Oublie cela. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. N'écoutez pas Moïse. Je suis content de cela. Je suis si content. » Moïse représentait la loi. Or, la loi ne pouvait sauver personne. La loi était un agent de police. La loi vous condamnait, elle vous mettait en prison. Elle ne pouvait pas vous en faire sortir. Mais la grâce vous en a fait sortir. La loi vous met en prison, elle vous condamne. La grâce, elle, vous en a fait sortir. Alors il dit, je construirai un autre tabernacle. Nous en construirons un pour tous ceux qui veulent garder la loi et qu'ils aillent là. Ainsi, ils auront là une organisation pour les observateurs de la loi. Ensuite, nous aurons ceux qui croient dans les prophètes. Que représentait Élie? Il représentait la justice de Dieu. Il était un puissant prophète. Il allait au sommet de la montagne. Le Seigneur lui envoya. Quelqu'un va s'ingérer dans les affaires du Seigneur et lui dire où aller et ce qu'il fallait faire. Alors Élie se leva et dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et les consume. Et le feu descendit et consuma les 50 hommes. On rapporta le fait au roi qui répondit, c'était probablement un orage de chaleur ou quelque chose de ce genre. Elles auront été frappées par la foudre. J'en enverrai 50 autres. Ainsi, il en envoya 50 autres. Élie se leva et dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et les consume. Les 50 autres y passèrent. Ce n'était pas un orage de chaleur cette fois. Voyez-vous, n'y comprenez simplement rien. C'était la justice de Dieu. Je ne veux pas la justice de Dieu. Je ne veux pas sa loi. Je veux sa miséricorde. C'est la miséricorde que j'invoque. Ô Seigneur, ne me juge pas par la loi, car par elle je serai condamné. Je ne pourrai subsister. Ainsi, ne me donne pas la justice, car elle m'enverra en enfer, parce que je suis un pécheur. Mais Seigneur, donne-moi ta miséricorde, ton amour, ta grâce. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pas Moïse, pas la justice, pas la loi, mais écoutez-le. Il a la miséricorde pour vous. Il a des dons pour vous. Il s'éleva dans les lieux très hauts et donna des dons aux hommes. Et Dieu agit exactement de la même manière avec son fils quand il l'adopta là. En d'autres termes, ne m'écoutez plus, je suis Dieu, mais j'ai adopté mon fils. Nul ne peut venir au Père que par le Fils. Écoutez-le. Oh là là, combien Dieu veut prendre son Église aujourd'hui et l'adopter. Il lui a donné naissance, maintenant il veut l'adopter. Mais nous ne voulons pas rester tranquilles. Si cela se passe parmi les méthodistes, les baptistes ne veulent rien avoir à faire avec cela. Si cela se passe dans une certaine église, l'autre ne veut rien en avoir à faire avec cela. Pourquoi? C'est une foule mélangée, c'est toujours la même chose. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un rassemblement, d'une réunion de prière, de rester là jusqu'à ce que Dieu envoie l'adoption du Saint-Esprit dans le Saint-Esprit et qu'il place dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont l'Église a besoin. Elle n'établira pas de compromis. Elle restera avec la parole. Une Église qui ne flirtera pas avec le monde. Une Église qui n'aura rien à faire avec le péché. Qui tournera le dos au péché. Qui marchera dans la sainteté et la beauté de Dieu. Vivant pour Dieu. Vivre ou mourir. Quelle différence cela fait-il? Aussi longtemps que je suis pour Dieu. Quelle différence cela fait-il? Dieu essaye de placer cela dans l'Église. Il essaye de le faire. Il le fait maintenant pour montrer aux gens qu'il le fait. Et pour quelle raison, quand Dieu manifeste ses dons devant l'Église, celle-ci, comme je l'ai dit ce soir, à l'exemple d'un bébé dans un ou d'une femme dans un magasin populaire à prix unique, ne sont même pas y prêter attention. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, cinq soirs, ici dans cette grande région, et il y a encore 200 places vides dans un auditorium qui en contient 1200. Avoir faim et soif de la justice. Voyez-vous ce que je veux dire? Je ne vous gronde pas. Mais je vous apporte une vérité, c'est cela. Savez-vous ce qui en est? C'est que les gens viennent à l'église. Les gens aujourd'hui veulent du divertissement. Ils pensent, les Américains ont tellement de divertissement que c'est ce qu'ils doivent avoir. Cela nourrit l'esprit qui est en eux. C'est un esprit de divertissement. Vous devez les divertir. Dieu ne divertit pas les gens, il les réprimande. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et que cela arrive au point où l'église doit avoir des repas de soupe, des danses, des bancos et toutes sortes de non-sens, comme des ventes d'objets divers pour payer les prédicateurs, que Dieu soit miséricordieux envers cette Église. C'est vrai. Nous avons besoin du Saint-Esprit, et de la puissance et de l'adoption, afin que nos ministères soient révélés. Amen. Mais quand les gens veulent voir quelque chose, ils vont voir par exemple un certain ministère. Ils entendent dire que ce frère a un certain ministère. Alors ils y vont et disent, « Oh oui, ce n'est pas mal. Hein, c'est bien. Bon, d'accord, où irons-nous demain ?» Quelque chose d'autre, voyez-vous, cela ne les attire pas du tout. Ils voient tellement de la bonté de Dieu qu'à la fin, ils s'en éloignent sans discernement. Cela me rappelle une vieille histoire anglaise. Il est question d'un homme qui avait lu quelque chose au sujet de la mer. Oh, combien elle était belle! Quel spectacle magnifique s'offrait au regard quand ces grandes vagues salées s'élançaient et que les mouettes volaient au-dessus d'elles. Oh, combien c'était merveilleux! Il n'avait jamais vu la mer. Un jour, il eut assez d'argent pour se permettre d'aller jusqu'à la mer et traversa tout le pays jusqu'à ce qu'il arrive à proximité de la côte. Et là, il rencontra un vieux loup de mer, c'est-à-dire un marin, revenant de la mer. Celui-ci lui demanda, « Où vas-tu, brave homme ?» Il répondit, « Oh, j'ai lieu au sujet de la mer. Je vais à la mer. Je vais la regarder de mes propres yeux et voir ces magnifiques vagues se briser dans une belle écume blanche. Je vais sentir l'air salé et en remplir mes poumons, entendre le cri des mouettes, etc. » Oh, combien il est enthousiasmé à la pensée qu'il allait voir la grande étendue d'eau. Le vieil homme le regarda, lui dit, « Eh bien, je suis né sur cette mer il y a 50 ans. Je ne vois là rien de tellement extraordinaire. » Voyez-vous, il l'avait tellement vu, avait tellement vu tout cela, que tout cela lui était devenu si familier qu'elle était plus belle à ses yeux et n'avait rien d'extraordinaire. Il se laissait balloter par les vagues sans y faire attention. C'est ainsi que les églises sont devenues avec Dieu. Nous voyons l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Le réveil qui y suit secoue les gens, leur donne de se lever de chaises roulantes. Les estropiés se mettent à marcher, les aveugles recouvrent la vue. L'Esprit de Dieu se manifeste dans les réunions, discerne les pensées même de leur cœur. De grandes choses prophétiques sont annoncées, absolument parfaites chaque fois. Elle exigera, c'est bien. L'un d'entre eux assis là ajoutera, tout en mâchant une grosse boule de chewing-gum, je pense que c'est pas mal. Nous allons voir Lucie demain soir. Nous n'allons pas, voyez-vous. Le pasteur veut nous condamner, et bien qu'il le fasse, et nous irons dans cette autre dénomination. Nous irons là-bas, et nous nous joindrons à eux. S'ils nous mettent hors de l'église de Dieu, nous irons aux assemblées. S'ils nous mettent hors des assemblées, nous irons chez les unitaires. S'ils nous mettent hors des unitaires, nous irons chez les binitaires. S'ils nous mettent hors des binitaires, nous irons chez les trinitaires. Ici, nous avons beaucoup de place, voyez-vous. Oui, vous avez de la place, mais frères, il ne devrait y avoir de la place en vous que pour Christ. Si vous voulez venir à lui. Oh Dieu, sois miséricordieux envers l'Église de ce jour. Je m'arrêterai là ce soir, parce que je ne veux pas vous irriter. Mais j'ai dû utiliser ces soirées pour faire pénétrer ceci en vous, pour vous faire savoir que l'Église est dans une terrible condition. Assurément, notre zèle, nous sommes devenus paresseux, mous, vous savez. Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi. Il veut, je pense à ceci. Ne me dis pas en des termes lugubres que la vie n'est qu'un rêve vide, que l'âme qui sommeille est morte, et que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Non, la vie est réelle et la vie est intense, et la tombe n'est pas sans but. Bien que tu sois poussière, qu'à la poussière tu retourneras, cela ne parle pas de l'âme. J'aime spécialement certains versets de ce psaume évocateur de la vie. La vie de grands hommes nous rappelle toutes, Paul, Pierre, Jacques, Jean, la vie de grands hommes nous rappelle toutes que nous pouvons rendre notre vie sublime, dont le départ laisse derrière nous des empreintes de pas sur le sable du temps. Des empreintes de pas que peut-être un autre, en voguant sur la haute mer solennelle de la vie, à la recherche d'un frère désespéré et naufragé, en voyant vos empreintes de pas, reprendra courage. Combien de buveurs, devant les empreintes de pas d'un autre buveur qui s'est converti et vit saintement et pieusement, rentreront en lui-même. Combien de femmes recrocheraient tout à nouveau en voyant une femme fidèle, habillée décemment et agissant comme une dame, allant à l'église avec un cœur tout entier à Dieu. C'est quand vous êtes scellé, c'est quand vous êtes marqué. Tout le monde vous connaît, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ô Dieu, laisse l'église pentecôtiste vivre, telle est ma prière. Puisse-t-il nous conduire à cet endroit, je souhaiterais qu'il le fasse ce soir même. Je souhaiterais qu'il prenne ce groupe ici ce soir et qu'il nous adopte comme ses fils et ses filles. Nous sommes nés fils et filles de Dieu, mais puisse-t-il nous adopter en tant que ses fils et ses filles. Quel rassemblement puissant ce serait. Dieu placerait des dons dans cette église, ici ce soir. Et vers cette même heure, après-demain, tous les gens tout autour sauraient que quelque chose s'est produit dans ce lieu. Ils le sauraient certainement. Ils le sauraient parce qu'ils verraient l'Esprit de Dieu se manifester dans les gens. Oh, combien je voudrais cela. Ne voulez-vous pas? Chacun d'entre vous, ne soyez pas fâchés contre moi. Je deviens un peu cassant. Mais comme j'ai toujours dit, un frère ici a dit qu'il était charpentier. Eh bien, si vous n'enfoncez pas le clou profondément, il ne tiendra pas. Il ressortira. Ainsi, j'espère que ceci ne ressortira pas. J'espère que cela restera là, à cet endroit. Et tenez-le avec les deux mains. Cela me rappelle quand j'allais, il y a des années, dans le Colorado pour y chasser en début de saison. J'aime chasser l'élan et le cerf. Et je prenais mes vacances à ce moment-là. Un jour, je vis une scène là-bas que je n'ai jamais oubliée. Cela fait plusieurs années. J'étais juste derrière la ligne de partage des eaux continentales, et il y avait ce qu'ils appellent la rivière Troublesome. Je gardais le bétail à cet endroit. À l'est et à l'ouest coulait une rivière dont les deux bras, en se rejoignant, formaient la rivière Troublesome, une organisation Hereford fait de l'élevage dans cette vallée. Par tonnes de foin que ce terrain pouvait produire, vous pouviez mettre une vache dans ce pâturage. Et à chaque ranch était attribué un certain nombre de tonnes de foin. Je pense que c'est pareil ici en Oregon et que vous faites paître vos vaches dans le pâturage. J'avais l'habitude d'y aller au moment où ils rassemblaient le bétail de printemps pour le conduire à un certain endroit où il y avait un portail servant d'aiguillage pour séparer les bêtes qui appartenaient à des privés et celles qui appartenaient au gouvernement. Et je restais là, une jambe croisée sur la selle de mon cheval. Et j'observais le cow-boy qui surveillait le passage de ce bétail. Le nôtre était le trépied et celui de M. Grimm, le losange. Et oh, nous avions 20 à 30 éleveurs différents qui faisaient défiler leur bétail. Je remarquais que ce cow-boy ne faisait jamais très attention à la marque qui était sur la vache. Savez-vous à quoi il regardait? Il regardait au bouton de l'oreille, indiquant la race. Voyez-vous? Seul l'authentique Hereford pouvait entrer dans ce pâturage. Et je pense que c'est ainsi que Dieu fera au jour du jugement. Il ne va pas se soucier de savoir si vous avez appartenu aux assemblées ou à l'église de Dieu ou autre. Il regardera ce bouton de race, frère. Et s'il y est, vous entrerez. Sinon, peu importe la marque que vous porterez, vous serez renvoyé, c'est tout. Ainsi, un jour, tout au fond des montagnes, le vieil éleveur et moi étions de très bons amis. C'était un bon chasseur. Il partit en tirant le cheval de bas, en direction de l'ouest. Quant à moi, je me dirigeais vers l'est, du côté des pics coraux, comme on les appelle. Il n'avait pas encore neigé, ou pas assez pour qu'elle reste. C'était un peu tôt, et comme il n'y avait pas encore eu de tempête de neige, les animaux étaient sur les hauteurs. J'attachai mon cheval, et je fis une journée de marche, à peu près jusqu'à la limite des arbres. Il arrive que vous soyez pris dans un de ces orages d'octobre. Il se peut qu'il pleuve très fort, et que cela tourne en grésil, puis en neige, et que le soleil réapparaisse et qu'ensuite il se mette à pleuvoir de nouveau. Vous savez comme c'est en automne. Ainsi un orage survint alors que j'étais très haut, à la limite des arbres. Comme c'était trop sec pour repérer un sentier, je m'abritais tout simplement là derrière un arbre. J'étais debout derrière un arbre et posais mon fusil. J'attendis que l'orage passe. Pendant ce temps, la température s'était rafraîchie et il pleuvait très fort. Ainsi l'orage terminé, je me tenais là en train de penser à Dieu et je pensais « Oh Dieu, combien tu es merveilleux !» J'ai toujours vu Dieu dans la nature. C'est là que vous le voyez. Et je pensais, tu es si merveilleux, Seigneur. Oh, je souhaiterais que tu descendes ici sur moi. Laisse-moi aller à la maison depuis ici. Et je pense encore, oh, quand je mourrai, prononce pour moi la prière indienne. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, toujours vivant, puisse-t-il marcher sur les longues pistes du gibier et rencontrer ses bien-aimés de ce côté-là. Je pensais, oh Seigneur, laisse-moi aller dans ce pays. Dans un pays comme celui-ci, quand je quitterai ce monde. Je me tenais là, l'orage avait cessé, et je méditais profondément. Ainsi je me levais, regardais autour de moi, et remarquais tout à coup, alors que je regardais dans cette direction, vers l'ouest, du côté de l'Oregon, c'était vers la fin de l'après-midi, je remarquais, au travers de l'échancrure des montagnes, que le soleil pointait comme un gros œil semblable à Dieu. Son œil était sur le passereau. Je pensais, « Oh Dieu, te voilà dans le coucher du soleil !» Et comme je regardais, je vis que la pluie qui avait gelé sur les sapins avait formé un arc-en-ciel sur la vallée. Tout en haut, au sommet de la montagne, le vieux loup gris hurlait. Son compagnon répondait au fond de la vallée. Le vieil élan, mâle, commençait à bramer. Il s'était perdu pendant l'orage. Vous parlez de la profondeur qui appelle la profondeur. Oh là là, je pensais, pourquoi dois-je quitter cet endroit? Ceci est la maison pour moi. Je souhaiterais pouvoir rester ici pour toujours. Je me suis senti comme Pierre. Construisons 3 tabernacles et restons ici. Ceci est l'endroit où il faut rester. J'entendais Dieu dans la belle de ce loup, à son compagnon, et je pensais, oui, ô Dieu, c'est toi qui m'appelles. Et c'est pareil pour l'élan. Et voyant l'arc-en-ciel se former, je pensais, un arc-en-ciel veut dire une alliance. C'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce sont les deux extrémités de l'arc-en-ciel. Celui qui était, qui revient, le rejetant. Rejetons à la postérité de David, l'étoile du matin, le lys de la vallée, la rose de Saron, oh là là, tout ce qu'il est. Et je pensais que dans l'arc-en-ciel, il y avait l'alliance, comme nous le voyons dans l'Apocalypse, celui qu'on peut considérer comme l'arc-en-ciel, le premier et le dernier, de Ruben à Benjamin, le premier et le dernier, et toute l'écriture s'ouvrait, je pensais, oh Dieu, tu es si grand, tu es si grand, et je me mis à courir sous mes pieds, à courir tout autour de cet arbre aussi fort que je pouvais. J'allais aussi vite que je pouvais en criant « Alléluia, Alléluia, Alléluia !» en courant comme cela. Je Et je m'arrêtais, je dis, oh Dieu, combien tu es grand. Alléluia, alléluia, alléluia. J'étais comme toute l'armée du salut réunie là-bas en haut. Et je pense, je passais là un bon moment. Je ne faisais attention à personne. J'étais à 55, voire 65 kilomètres loin de la civilisation. Je manifestais pour le Seigneur. Vous ne pensez pas que les baptistes manifestent? Vous auriez dû m'entendre. Ainsi, je courais autour de cet arbre aussi fort que je pouvais, en proclamant les louanges de Dieu. Je pensais, oh, comme c'est merveilleux. Combien j'aimerais rester ici, Seigneur. Oh, si je n'avais jamais d'autre campagne. Je resterai ici avec toi jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Combien c'est merveilleux. Mais comme ce fut le cas pour Pierre et les autres ce jour-là, en bas de la montagne, il y avait un garçon malade, attendant d'être guéri. Ainsi je sus que je devais redescendre quelques jours plus tard. J'étais là, et tout à coup, j'entendis un petit écureuil des sapins. Je ne sais pas si vous en avez ici ou pas. C'est l'agent de police des bois. C'est la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Il sauta sur un vieil arbre abattu, puis sur une souche. Elle se mit à jacasser, 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 jacasser. Et je pensais, pourquoi es-tu si excité, mon petit gars? Tu n'es pas assez gros pour faire quoi que ce soit. Ainsi, pourquoi piailles-tu? Oh, pourquoi fais-tu autant de bruit? T'ai-je peur? Si tu n'as pas aimé cela, regarde un peu. Laisse-moi te montrer comment je peux y aller. Et je me mis à tourner autour de l'arbre. Je pensais, comment apprécies-tu ça? Oh, notre créateur est merveilleux. Tu devrais le louer. Mais je remarquais que ce n'était pas moi qui le regardais. Là qui naît sa petite tête de côté, son œil qui sortait de sa joue, vous savez, était regardé comme ça. Après un moment, m'étant approché tout doucement, je vis que le vent avait obligé un grand aigle brun à se poser. Oh, c'était un magnifique oiseau. J'aime les aigles. Il fit un bond et je pensais, oh, voilà. Voilà pourquoi. Ah, c'est pour cela que tu faisais du bruit. Tu avais peur de cet aigle. Et ce grand aigle fit un saut et oh, quel énorme animal. Ses grands yeux gris scrutaient l'horizon. Et je pensais, Seigneur, pourquoi as-tu détourné mes regards de l'arc-en-ciel, de l'ours et de tout ceci pour me montrer cet oiseau? Qu'y a-t-il de divin dans cet aigle? Je ne vois rien de divin dans ce petit écureuil. Je ne vois rien de divin dans cet aigle. Qu'y a-t-il de tellement divin en lui? Puis je commençais à observer, je pensais. Je regardais et je dis, sais-tu que je pourrais te tuer? Mon arme est là et je pourrais te tirer dessus. Il en savait plus que ça. Cela ne le gênait pas du tout. Et je pensais, mais n'as-tu pas peur de moi? As-tu seulement peur parce que j'ai crié comme ça? Mais c'était notre créateur que je louais. Tu devrais aussi le faire. Si quelqu'un est arrivé à ce moment-là, il aurait pensé qu'il y avait là assurément un fou. Mais je ne m'en souciais guère. J'y passais un bon moment. J'adorais le Seigneur, voyez-vous? C'est ce qui ne va pas chez vous. Vous êtes trop empesé et vous avez tellement peur. Oh, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de reconnaître qu'il n'y a ici personne, si ce n'est Dieu et moi. C'est tout, c'est vrai. On commence à se demander ce que les voisins diront. Nous voulons afficher une conduite exemplaire, mais le voisin saura de toute manière ce qui en est, ce qu'il ira avec vous. Ainsi, j'écoutais ce petit écureuil, vous savez. Je l'observais, et j'observais aussi cet aigle. Je pensais, qu'est-ce qui te rend si sûr de toi? Et je commençais à prêter attention à lui. Il faisait gonfler les plumes de ses grandes ailes, comme ça, vous savez, pour les arranger en quelque sorte. Et je pensais, je vois, ah ah, tu as confiance dans tes ailes. Tu sais qu'avant que j'ai eu le temps d'atteindre mon fusil, de la main que j'ai appelée, tu serais déjà là-bas dans les arbres et que je ne te verrais même plus jamais. Voyez-vous? Et je pensais, si tu peux avoir autant de confiance de tes ailes que Dieu t'a donné pour échapper au danger, à combien plus forte raison l'Église de Dieu devrait avoir confiance dans la puissance de Dieu qui peut la faire échapper de la maladie, des difficultés, de la mort, de l'enfer, pour s'envoler un jour vers Dieu dans les bras du Seigneur Jésus. Je pensais, aussi longtemps qu'il peut sentir que ses ailes sont en ordre, il est bon, il connaît sa position. Pourtant que le Saint-Esprit visite l'Église, il le laisse tomber. Oh, je ne sais pas, si vous priez de nouveau pour moi, peut-être que cela sera en ordre. C'est simplement, oh là là, c'est terrible. Je l'observais pendant un certain temps, je vais vous dire ce qui arriva. Je l'observais pendant quelques instants, je regardais, je pensais, oh combien je t'admire. Je te vois dans cet aigle, oh Dieu. Ainsi, après un certain temps, il n'avait plus peur de moi, vous voyez. Je l'admirais. J'admire tout ce qui possède une colonne vertébrale. Je déteste voir une personne venir à l'église, se mettre à louer et tout le reste, et qui en ressortant a honte de témoigner dans la rue, a honte de demander la bénédiction sur la nourriture qu'elle mange au restaurant. Oh là là, c'est lâche. Dieu ne veut pas un lâche. Il veut un homme. Il veut enlever cette fourchette et mettre une colonne vertébrale. Le vieux Buddy Roberts disait, Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale de la grandeur d'une scie et remplis de connaissance le pignon de mon âme. Aide-moi à combattre le diable aussi longtemps que j'ai une dent et ensuite lis-le jusqu'à ce que je meure. C'est le genre de témoignage que nous devrions tous avoir. Vous vous souvenez de Buddy Roberts, beaucoup d'entre vous, vieux frères nazaréens. Je regardais ce vieil aigle et je pensais, tu sais, tu es vraiment un oiseau gracieux. Je t'aime vraiment bien. J'ai souvent prêché à ton sujet et je t'aime vraiment bien. Il en eut assez d'écouter cet écureuil qui faisait jacasse, 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 comme s'il allait le mettre en pièces. Mais il ne pouvait rien faire, il était trop petit. L'aigle en eut bientôt assez. Aussi fit-il simplement un grand bond. Il battit des ailes peut-être deux fois et ensuite je me mis à pleurer. Je me tenais là et les larmes coulaient sur mes joues alors que j'observais cet aigle. Dieu doit l'avoir placé là pour une raison. Il n'a jamais battu des ailes auparavant. Il ne les fit battre qu'environ deux fois pour aller au-dessus de la cime des arbres. Alors il sut comment placer ses ailes dans le vent. Et chaque fois que le vent soufflait à nouveau, il en profitait pour monter un peu plus haut. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'un tout petit point. Il laissa ce petit écureuil plié à la terre qui disait « Jacasse, jacasse, jacasse. Le temps des miracles est passé. Le Saint-Esprit n'existe plus. Tout se parlait en langue est faux. La Pentecôte n'existe pas. C'était il y a très longtemps. » L'aigle, lui, sut simplement comment disposer ses aigles pour utiliser la puissance du vent. Combien l'Église devrait savoir comment placer sa foi dans la puissance de Dieu, pas simplement d'une Église à une autre, mais de s'élever dans la gloire de Dieu, jusqu'à ce que vous ayez fini d'entendre de telles choses comme « Le temps du miracle est passé, le Saint-Esprit n'existe pas, non-sens. » Qu'en pensez-vous, madame? Croyez-vous que c'est la vérité? Le croyez-vous aussi, sœur? Si vous le croyez, vous pouvez vous lever de ces brancards ce soir, si vous le voulez. Ce n'est pas d'aller dans telle réunion ou d'aller dans telle autre, faire que celui-ci prie pour vous ou celui-là, un certain prédicateur ou un évangéliste bien connu, mais placez simplement vos ailes correctement. Ayez les yeux sur le but. Je ne serai pas ébranlé. Alléluia! Et chaque fois que le Saint-Esprit entre, montez un peu plus haut encore, toujours plus haut. C'est cela. Le croyez-vous de tout votre cœur? Le croyez-vous, frère? Sachez simplement comment placer vos ailes. Dieu a promis. Dieu ne peut pas mentir. Dieu est entièrement la vérité. Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Je ne peux guérir personne. Je ne crois pas qu'il existe quelqu'un qui puisse guérir une autre personne. Mais c'est vous, vous-même qui devez avoir foi en Dieu. Le Saint-Esprit est descendu chaque fois, visitant ce bâtiment comme il le fait ce soir. Le croyez-vous? Assurément. Il a même réprimandé et châtié son église pour la nettoyer. C'est ce que Dieu veut faire. Les vieux batteurs d'or, savez-vous comment vous pouviez savoir que c'était vraiment de l'or pur? Il prenait cet or et le battait, et le battait, et le retournait, et le battait à nouveau, jusqu'à ce qu'il ait fait sortir toutes les impuretés. Savez-vous comment ils savaient qu'il ne contenait plus d'impuretés? Quand ils y voyaient leur propre réflexion. Alors ils savaient que toute la pyrite et le reste étaient sortis. Toutes les pierres et les corps étrangers étaient sortis. C'était de l'or pur, quand le batteur pouvait voir sa propre réflexion. C'est ainsi que Christ agit envers son Église. Il la bat, elle la retourne, elle la bat, elle la retourne, elle la bat à nouveau. Comment un prédicateur peut-il oser être assez poule mouillée pour ne pas annoncer la parole de Dieu et dire aux gens, aux femmes qu'ils vivent mal, leur dire que c'est faux de porter ces vêtements immoraux, que c'est faux de fumer ces cigarettes, que c'est faux de rester à la maison plutôt que d'aller à l'église, que c'est faux de jouer, d'aller aux courses et de se conduire comme l'église le fait aujourd'hui, de jouer à la loterie et autres. Que Dieu m'en préserve. Non, monsieur, battez cette chose jusqu'à ce que Jésus la batte avec le Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il y voit sa propre réflexion. Alors vous pourrez voir les œuvres de Christ s'accomplir dans l'Église. Alors elle sera prête pour l'enlèvement de l'or pur. Le croyez-vous? Vous tous? Très bien. Combien y a-t-il ici de malades? Levez la main. Vous avez dit que vous étiez des croyants, n'est-ce pas? Très bien. Je vais vous demander de faire quelque chose. Vous deux qui êtes pasteurs, je veux que vous descendiez ce couloir. Vous qui êtes pasteurs, je veux que vous alliez dans ce couloir pour vous montrer que ce n'est pas l'homme. Amen. Ces hommes, ce sont des hommes qui croient, les autres aussi, mais j'ai choisi ces deux-là. Deux est un témoignage. Très bien. Maintenant, combien parmi vous croient? Bon. La parole de Dieu est-elle juste? Amen. Assurément, c'est vrai. Ainsi, si la prière de la foi sauvera le malade, est-ce vrai? Ces signes suivront ceux qui auront cru, est-ce vrai? Amen. Ainsi, si ce n'est pas juste, alors vous n'êtes pas sauvés. Si c'est le même Dieu qui l'a dit, voyez-vous? Ainsi, vous n'êtes pas sauvés, il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas d'au-delà si ce n'est pas juste. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Quand ils imposeront les mains malades, ils seront guéris. Maintenant, chaque personne qui est croyante, il n'est pas dit ces signes suivront les prédicateurs. Ces signes suivront ceux, qui qu'ils soient, qui auront cru. S'ils imposeront les mains malades, ils seront guéris. Vous attendez que l'on prie pour ce bébé, n'est-ce pas, sœur? Mais le bébé malade, voulez-vous que l'on prie pour le bébé? Êtes-vous un prédicateur, frère? Bon, allez imposer les mains à ce petit bébé rouquin là-bas. Je regarde autour de moi pour voir s'il y a quelqu'un d'autre qui désire qu'on lui impose les mains. Très bien. Généralement, nous utilisons le discernement et nous pourrions aussi l'avoir maintenant. Oh, bien sûr. Certainement. C'est en ordre si nous le croyons. Mais vous devez avoir la foi. Si tu peux croire, tout est possible. Maintenant, souvenez-vous que si nous prions et que nous demandons à Dieu sincèrement, cette Église, maintenant nous sommes une unité, nous sommes ensemble. Si nous le demandons à Dieu sincèrement, alors Dieu est tenu de s'occuper de ce que nous lui demandons. Est-ce vrai?
Amen.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Amen.
Est-ce vrai?
Amen.
Madame Waite, est-ce la vérité? Bien sûr, j'en suis pleinement convaincu. Je l'ai fait pendant 31 ans. J'ai espéré ces choses pendant toute ma vie. Comme Saint Jean 24, si vous voulez le lire. Voyez-vous, Saint Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point dans le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je crois cela. J'étais un jeune homme quand j'ai commencé à prêcher. J'ai prêché depuis ce moment-là. J'ai donné ma vie pour l'Évangile. Je souhaiterais avoir 10 000 vies à donner pour cela. C'est vraiment merveilleux. J'en ai pleinement de la joie. Si ce n'est pas ainsi, alors cette autre chose n'est pas non plus cela. Si ce n'est pas ainsi, alors cela n'est pas non plus. Si c'est cela, alors c'est ainsi. Voyez-vous, maintenant, nous sommes prêts. Êtes-vous prêts à prier? Très bien. Maintenant que chaque personne qui est ici, je veux que vous imposiez les mains à quelqu'un près de vous. Et frère, je veux que vous en mettiez en la tête de ces brancards ici, que vous imposiez les mains aux petits garçons et à ces gens. Maintenant, levons-nous. Oh, j'aime ce moment particulier. Tout le monde retient son haleine. Que va-t-il arriver? Observez ce qui arrive. Vous tournez simplement, laissez votre foi agir maintenant. Laissez votre foi agir et dire, cet homme sera guéri, celui-ci sera guéri, cet homme, cette femme, celui-ci, et celui-là, ils seront tous guéris. Ils seront guéris et ce sera la fin de leur maladie. Demain, il y aura une telle différence dans ces gens, oh, ce sera merveilleux. Ne le croyez-vous pas?
Amen.
Que sommes-nous? L'Église de Dieu. Maintenant, comment savons-nous que Dieu ne va pas tous nous adopter ce soir pendant que nous faisons ceci? Nous obéissons à ses commandements. Maintenant, chacun de vous, comme si c'était vôtre. Maintenant, ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne qui vous impose les mains. Maintenant, inclinons nos têtes, chacun d'entre nous, en ayant nos mains posées sur quelqu'un d'autre. Je veux que vous tous, vous répétiez cette prière après moi. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, il y aura une telle différence dans ces gens, oh, ce sera merveilleux. Ne le croyez-vous pas? Que sommes-nous? L'Église de Dieu. Maintenant, comment savons-nous que Dieu ne va pas tous nous adopter ce soir pendant que nous faisons ceci? Nous obéissons à ses commandements. Maintenant, chacun de vous, comme si c'était vôtre, maintenant ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne qui vous impose les mains. Maintenant, inclinons nos têtes, chacun d'entre nous, en ayant nos mains posées sur quelqu'un d'autre. Je veux que vous tous vous répétiez cette prière après moi. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, donateur de tout don parfait. Mon Père, donne-moi la foi pour la personne à laquelle j'impose les mains. Donne-moi de croire de tout mon cœur que cette personne sera guérie par ta puissance. Si j'ai péché, ne t'ai pas cru, d'une façon ou d'une autre, pardonne-moi, je te donnerai toute la louange et toute la gloire. Je promets ceci au nom de Jésus. Amen. Maintenant, gardez vos têtes baissées. Vous savez ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'est la prière que Dieu met dans votre bouche pour la personne. Maintenant, souvenez-vous que l'autre personne a prononcé les mêmes paroles en votre faveur. Maintenant, enfermez-vous avec Dieu. Il y a maintenant ici personne, si ce n'est vous et Dieu. Par la foi, sentez cette vertu de Dieu pénétrer dans ces corps malades. Le Saint-Esprit, vous l'avez senti il y a quelques minutes. Le sentez-vous en ce moment? Ce sentiment de paix qui se déplace en vous, rechargeant votre corps, c'est sa puissance de guérison. Oh Dieu, tu es ici, le grand Jéhovah, tu es le Dieu éternel. Envoie maintenant ton Saint-Esprit, Seigneur. Donne à chaque personne ici d'être remplie de ta puissance. Et qu'ainsi tu ailles d'une main à une autre, d'un endroit à un autre, visitant tous les malades pour les guérir. Alors ils sauront que la guérison divine n'appartient pas aux hommes, elle appartient à Dieu. Ils prient les uns pour les autres. La prière de la foi sauvera le malade. Dieu les relèvera. S'ils ont commis un péché, il leur sera pardonné. Attendez-le, Seigneur. Entends notre prière. Je prie pour eux tous. Je prie pour mes frères dans le ministère. Pour chacun qui a ses mains posées sur quelqu'un. Afin que le Saint-Esprit soit si réel pour eux qu'ils pourront sentir la puissance de Dieu. Et que ça leur donne un tel courage qu'il y aura une puissante adoption pour ce groupe de personnes. Et qu'ils puissent être adoptés dans la puissance, dans le domaine du Seigneur Jésus-Christ. Et que la puissance de Dieu puisse se répandre au travers de chacun maintenant. Et que tous soient guéris.
Amen.
Oh, tu es ici, Seigneur. Tu es ici. Je sais, sans l'ombre d'un doute, que tu es ici. Et que ta puissance agit maintenant et nous bénit. Ce que tu bénis sera béni. Ce que tu dis sera fait. Ce que tu places dans leur cœur, c'est ainsi que ce sera. Permets-le, Seigneur. Satan, nous t'ordonnons. Toi, démon. Toi, puissance des ténèbres, qui t'es infiltré et a lié tes gens. Tu as laissé quelque chose de mauvais. Tu as perdu la bataille. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité le troisième jour. Et t'as dépouillé de tout droit légal que tu avais. Tu n'es rien d'autre qu'un bluffeur. Et nous te demandons de retirer ta main ce soir. Satan, toi, mauvais esprit, libère tes gens. Nous te l'ordonnons au nom de Jésus-Christ. Que tout doute quitte ces gens en ce moment même et que le Saint-Esprit entre dans leur corps et les libère tous de la maladie, des tourments, des afflictions et des puissances mauvaises. Oh, Satan, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Tu es perdu. Tu n'es rien d'autre qu'un problème. Mais nous t'avons maintenant résolu. Sors d'eux, nous t'ordonnons au nom de Jésus de quitter cet auditoire. Et qu'ainsi tous les malades et les affligés soient guéris à la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux, je peux, je crois, je peux, je veux, je crois que Jésus me guérit maintenant. Ce grand médecin est proche maintenant, le sympathisant Jésus. Il réconforte le cœur abattu. Il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus. Si vous ne pouviez pas bouger un doigt, bougez-le maintenant. Si vous ne pouviez pas entendre d'une oreille, mettez vos doigts dans l'autre. Peu importe ce que vous êtes, vous ne ferez jamais mieux avant d'exercer votre foi. Donnez maintenant à Dieu une chance de vous guérir. Donnez à Dieu une chance de faire quelque chose pour vous. La prière de la foi a été prononcée. Nos mains ont été posées sur vous. Et maintenant, par le commandement du Seigneur Jésus, je commande au diable de vous quitter et que chacun de vous soit guéri.
Amen.
Le croyez-vous? Que tous ceux qui le croient se lèvent et acceptent maintenant leur guérison au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est cela. Alléluia. C'est cela. Ne doutez pas. Levez-vous. Amen. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez être guéri si vous le voulez. Ne doutez pas. Levez-vous et soyez libérés. Loué soit Seigneur, c'est bien. Amen. Levons nos mains et louons Dieu. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Thank you.
Oh,